Je voulais simplement rappeler que au début du cinéma scientifique, j'ai pas cité pour rien le nom du docteur Eugène Doyen, qui est l'un des premiers à s'investir, à financer des films, à les montrer dans des congrès en France en tout cas. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il va y avoir tout un débat entre le docteur Doyen, donc responsable d'une clinique renommée à Paris, et ses opérateurs successifs, donc Eugène Parnalan, qui était le premier en particulier, pour savoir qui était le véritable auteur du film. D'ailleurs, ça va être le premier débat en pratique, un caractère juridique sur la notion d'auteur dans le cinéma. Ça concerne véritablement le cinéma médical et le cinéma scientifique plus largement, hein, avec une décision de justice de 1905 qui attribue la paternité du film au docteur Doyen, aux dépens de Parnalan, qui faisait circuler des copies. C'est pour définir comment ça a démarré l'histoire du cinéma. On est en 1905, hein, donc on est bien avant le démarrage des activités d'Éric Duvivier. Alors pour essayer d'y comprendre quelque chose au milieu des années 50, parce qu'il y a eu une importante évolution, il y a un ouvrage qui est paru chez Masson, qui s'intitule « Films médicaux et chirurgicaux français ».« Films médicaux et chirurgicaux français ». Qui recense, tu ne connais pas, qui recense donc plusieurs centaines de films réalisés en France. Et à la fin de ce répertoire, on a des fiches standards sur lesquelles ça s'intitule « Répertoire général des films médicaux français ». Et donc, ceux qui achètent le répertoire en question peuvent indiquer le titre de leur film, indiquer le nom de l'auteur, le réalisateur technicien, c'est la formule qu'on utilise à cette époque, l'année, le format, la couleur ou le noir, le muet, sonore, longueur, etc., etc. Et donc, on commence à faire à cette époque-là un fichier. Alors, je le montre bien. On commence à faire un fichier des films médicaux. Jusqu'alors, on s'en était pas préoccupé, hein. On faisait un fichier de films scientifiques, mais c'était vraiment des fichiers faits par des cinémathèques de ministères, très aléatoires, avec des choix souvent subjectifs. Là, on essaye de recenser de manière optimale, enfin, si c'est possible, les films en question. Alors, quand on regarde... Apparemment, Christian ne connaît pas cet ouvrage, que j'ai pourtant trouvé à 20 centimes chez Boulinier. Donc, quand on regarde les différents acteurs du cinéma médical au milieu des années 50, on voit quelques sociétés. La plus importante, c'est Art et Science, d'Éric Duvivier, qui largement domine cette production de films médicaux. Il y en a d'autres qui sont vos rivaux, vos camarades d'ailleurs, vous les rencontrerez à plusieurs occasions. Donc il y a Pierre Gaillard, dont on a parlé, qui se retrouvera également dans la Cinémathèque Sandoz, qui va filmer les opérations à cœur ouvert en particulier, les premières images. On ne sait pas ce que c'est devenu, donc avis aux témoins éventuels. Et Jean Dallet, qui a une société du côté de Clermont-Ferrand, qui s'appelle FilmTech, et qui produit lui aussi assez régulièrement des films médicaux, plutôt avec un laboratoire comme Chibray, qui est situé à Clermont-Ferrand, mais qui est également un acteur. Et on voit quelques laboratoires pharmaceutiques, qui ne sont finalement pas si nombreux, et qui font mais très peu de films. Un, deux, trois. Hein, mais des productions internes à ces laboratoires avec des techniciens qui viennent... là, il y a un gros travail à faire pour essayer de repérer qui filme. Si ça se trouve, c'est quelqu'un qui travaille dans le laboratoire, qui a une caméra pourquoi pas 16 mm et qui tournent directement à l'intérieur. Et donc on voit des laboratoires comme Aron, dont tu parleras je crois cet après-midi Christian, Avelon, Biocédra, Botu, Bruno, Siba, déjà les Suisses, Dos, Lebas, Delagrange, qui est probablement celui qui fait le plus de films à l'époque, du Bernard, Fendre, Gégy, Robert et Carrière, qui fera une production pléthorique de films. Je me souviens que quand je faisais ma thèse, j'ai écrit un courrier à Robert et Carrière pour savoir où étaient passés leurs films, en particulier les premiers films en couleur des années 30. Et ils m'ont dit « on ne sait pas ». Donc c'était très mauvais signe. Donc depuis, je n'ai pas trouvé la trace de ces films-là. C'est une situation à peu près similaire dans tous les laboratoires pharmaceutiques. Hein. La plupart avaient une seule copie du film. Et bien évidemment, avec les mutations successives, les rachats, etc., on a dû jeter à la benne pas mal de ces documents précieux. Ça ne veut pas dire que tout est perdu, je te rassure, Christian, mais il va falloir chercher dans les greniers et identifier les opérateurs s'ils n'ont pas gardé une copie chez eux. Donc, vous avez un certain nombre de laboratoires et vous n'avez pas 100 doses. En 56, vous n'avez pas Sandoz. Sandoz s'implante en France. Sandoz, c'est une société suisse et elle s'implante en France à peu près au milieu des années 50. Elle n'a pas de stratégie publicitaire bien définie à cette époque-là, publicitaire et de communication. Alors, juste pour terminer sur ce, je profite que la caméra nous regarde, les fiches types, je vais les faire circuler, sont comme celles-là. Donc, vous avez le titre en capital. Vous avez en dessous le nom des médecins qui sont considérés comme les auteurs des films. Vous avez ensuite un résumé, souvent très précis, du contenu de ces films-là. Quel type d'image? Est-ce qu'on recourt à de la micro-cinématographie, par exemple? Ensuite, vous avez le métrage, 16 mm, couleur, sonore. Vous avez souvent l'année, pas toujours. Et vous avez la durée et le producteur. Là, j'ai photocopié un film d'art et sciences, donc réalisé par Éric Duvivier avec le professeur Duroux sur l'emploi des matières plastiques en technique anatomique. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Bon, il est vrai que Éric Duvivier a réalisé plus de 700 films, hein, je crois. Voilà. Allez, si ça se trouve, vous avez ça à rajouter. Donc, c'est juste la première page et on vous fait circuler ça. Alors, la question, qui est en fait une question de multiples entrées, donc je ne vais pas répondre à la question d'une manière évidente, je vais aborder juste la question de Sandoz, de l'arrivée de Sandoz et qu'est-ce que ça a transformé dans le cinéma médical. Donc Sandoz s'implante en France donc au milieu des années 50, avec des locaux assez importants à Rueil-Malmaison, ça va être le siège de Sandoz. Et Sandoz, un gérant français, qui est un pharmacien, qui s'appelle René Chatin, donc qui sera le PDG de Sandoz, pratiquement jusqu'aux années 80, date à laquelle il prendra sa retraite. Donc René Chatin est décédé, je crois, à la fin du siècle dernier, 20e. Alors ça, c'est pas clair, mais il embauche probablement un Suisse, qui était le docteur Lantier, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, qui a une fonction, une multifonction au sein du laboratoire, hein, qui est embryonnaire hein, en France. Hein, c'est déjà un gros laboratoire en Suisse. Et au fur et à mesure que les produits sans dose recueillent l'assentiment des professionnels français, la communication, on va dire, de sans dose va s'amplifier. Et donc, il va falloir ramifier un petit peu tout ça. Donc, il va y avoir un deuxième personnage qui va progressivement supplanté docteur Lantier, qui retournera apparemment en Suisse, c'est Michel Breitmann, voilà, qui est un littéraire, un pur littéraire, c'est un écrivain très réputé à l'époque, traducteur de Buzzati, hein, pour vous situer les bouquins de Dino Buzzati, c'est Breitmann. Breitmann est mort il y a 2 ans, et c'est lui qui va prendre en charge toute l'activité de ce qu'on va appeler les relations publiques. Alors là, je fais une petite parenthèse. pas de la publicité, mais trouvé à 20 centimes également. Donc c'est un petit bouquin des années... alors, c'est quoi l'année précisément ? Que je vérifie. 62. Relations publiques et publicité. Et les deux sont séparés. C'est deux choses différentes, la relation publique et la publicité. Alors, définition précise des relations publiques, hein, parce qu'il faut fixer les choses. Dans l'entreprise, un service de relations publiques ne fera pas lui-même de la publicité commerciale, mais il exercera une publicité détournée et apparemment désintéressée, destinée à servir le prestige de la maison, on dirait image de marque de nos jours, ce qui est une activité propre, proche de la propagande. Hein, c'est la définition de 62, j'ai perdu plein de papiers, mais c'est pas grave, donc la définition de 62. Ça vient des Américains, ce terme de relations publiques. Après la Seconde Guerre mondiale, on utilisait propagande aux États-Unis au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, propagande est un peu connotée, hein, après tout ce qui s'est passé. C'est complètement refusé. Il faut trouver une autre... Voilà. Et donc, il faut trouver un autre terme, et on va utiliser le terme, qui sera traduit en français, de relations publiques. Pour bien vous situer les choses, c'est en 54 qu'est créée la première école de formation pour les relations publiques en France. Hein, donc on est pile poil dans la période qui nous intéresse de basculement d'un cinéma qui est proche du sujet qu'il traite vers un cinéma qui, lui, va pouvoir aller voir du côté de la psychiatrie, imaginer des images subjectives comme vous l'avez fait dans vos films. Donc c'est une période clé. Et Michel Breitman est intéressé par l'écriture. Il faut savoir qu'à côté du cinéma chez Sandoz, il va y avoir des productions à caractère littéraire, à foison. Hein. Il y aura les cahiers du médecin Bridger, par exemple, mais il y aura Sandorama, en particulier, qui sera une revue très, très cotée, où on fera appel à des plumes pour raconter des histoires, décrire le monde tel qu'il est. On ne parlera pas uniquement de médecine. Donc, Breitman va s'occuper frontalement, même s'il est un grand cinéphile, Breitman, c'est prix des deux magots, prix Sainte-Beuve, etc. Hein, donc un auteur très très reconnu. Il va s'occuper plus particulièrement de l'aspect littéraire, et au moment où se développe, sous l'impulsion du succès des deux films successifs d'Éric Duvivier, c'est-à-dire Le Monde oui, j'ai un problème. Bon, pourtant, je l'ai dit au moins une dizaine de fois. Voilà. Schizophrène, voilà. Bon, excusez-moi. À fin d'après-midi, il fait très chaud. Les images d'un monde, visionnaire, qui sont deux gros succès qui braquent les projecteurs, en quelque sorte, sur Sandoz. À partir de ce moment-là, on va embaucher une autre personne qui va être Jean-Charles Gaspard, qui va être la personne qui va coordonner véritablement l'activité cinématographique. Et lui a été formé dans une école de relations publiques. Il sort d'une école de relations publiques. En même temps, c'est un grand cinéphile, ami de Tavernier. Ils sont allés au MacMahon ensemble. Ils ont fréquenté des tas de cinéastes. Donc, il est complètement passionné, il est complètement dans son milieu. Et il a cette formation de relations publiques. Donc, c'est dans ce cadre-là, me semble-t-il, que les laboratoires Sandoz vont s'éloigner de la pratique relativement classique de la plupart des laboratoires. Hein, quand on regarde les résumés des films, bon, ce sont des films d'enseignement précis, avec souvent des animations, d'ailleurs, déjà, à cette époque-là, 56, vont s'éloigner de ce type de cinéma pour mettre en œuvre un cinéma de création, d'avant-garde, qui va favoriser justement leurs relations publiques. Pourquoi ? Parce que les médecins, à cette époque-là, ont une certaine dévotion. C'est ce que raconte très bien dans son interview, dans l'interview dont je vous ai parlé, donc Gérard Leblanc. Il part du principe il le dit explicitement, hein, donc c'est lui qui assume ses paroles, attention, il y a des médecins dans la salle, que les médecins se posturent, c'est le terme qu'il utilise, comme des personnes cultivées. Il part de ce principe-là pour expliquer pourquoi, dans les années 60, la Cinémathèque Sandoz, outre Éric Duvivier, Jean Dallet et Gaillard, va également faire appel à des cinéastes comme Pollet. Et donc par cette cinéphilie qui est très prégnante à l'époque, pas uniquement dans les milieux médicaux, et c'est par cette approche que le laboratoire Sandoz va captiver véritablement son public, va lancer la revue qu'on a vue tout à l'heure, donc Médecine Cinéma, jusqu'à l'effritement, on va dire, de la cinéphilie classique qui s'opère dès les années 70, dès le milieu des années 70, et qui, finalement, explique en partie le déclin de la revue en question. Mais là où c'est intéressant, c'est que, si l'on prend le cas d'Éric Duvivier, les films restent produits par Art et Science, hein, avec un soutien de Sandoz, avec des commandes de copies de Sandoz, et à l'évidence, Éric Duvivier, qui était un grand amateur de surréalisme, de Ernst, etc., etc., va pouvoir aboutir à un désir qu'il a en lui de faire un cinéma d'avant-garde, véritablement d'avant-garde, qui va le dévorer un peu. Hein. Ça va conduire jusqu'à des projections de films dont on vous a présenté le programme, jusqu'à l'acquisition d'une salle d'art et d'essai, le cinéma Le Seine. Hein. Ça, je ne sais pas que, c'est quelle année 73, voilà, 73. Hein, parce qu'on ne vous a pas dit ça également, mais Éric Duvivier va également donc gérer le cinéma Le Seine, hein, donc dans les années 70.
Et le médecin que vous avez nommé à la direction de Sandoz explique parfaitement comment a pu se créer une situation de parrainage, c'est pas beau de l'utiliser, de
mécénat.
De mécénat. Mmh. Vous avez très bien dit ce qu'était chacun de ces auteurs. Vous comprenez que parce qu'il y a des moments, le choix n'est pas vraiment. Se faisait avec eux, on pouvait avancer dans les productions.
Ça marche pas.
Dans les productions qu'on n'aurait jamais pu faire avec un.
Bien sûr.
La notoriété des personnes, la personnalité des personnes. Donc, c'est pas un. C'est pas un choix, si vous voulez, de parrainage et de film fait n'importe comment.
Voilà. On a véritablement affaire à des personnes extrêmement érudites, passionnées par toutes les formes d'art. Que ce soit le PDG de Sandoz, que ce soit Bretman ou que ce soit donc Gaspard. Et c'est eux qui vont dicter leur choix, parfois en conflit avec le service marketing publicitaire à proprement parler, et qui coexiste.
C'est sûr.
Voilà.
Bon, c'est pour ça que ça représente malgré tout une certaine exception.
Ah bah oui.
Parce que ça n'est pas arrivé ailleurs. Et je ne pense pas d'ailleurs que ce soit produit même dans d'autres pays. Dans les grands laboratoires, parce qu'il faut l'accord, la vision, la même vision du PDG, des relations culturelles, il y a tout un ensemble de qualités qu'il faut aux personnes qui vont choisir
hein, parce que on manquait pas de sujets. Mais si on avait continué, mm-hmm. vous en auriez plusieurs autres maintenant.
Bien sûr.
Ça ne manquait pas. Hein. Mm-hmm. Mais on est quand même allé très loin. Mm-hmm. On est quand même allé très loin parce que avec la femme sans tête, le Max Ernst, on allait quand même. Le Michaud, à la rigueur, on aurait pu dire vision sous drogue. Mais avec la femme sans tête, quand même.
On s'écarte complètement du cadre médical. Voilà, c'est du, effectivement du pur mécénat. Et c'est une expérience paradoxalement unique. Même en Suisse, ça ne se fait pas. Sandoz ne le fait pas en Suisse. Il ne le fait qu'en France.
Et c'était en plus avec une certaine logique, parce que là, le surréalisme, j'avais choisi comme la suite de justement les logiques de l'inconscient, des rêves, etc. C'est-à-dire que ils ne sont pas incompatibles les uns par rapport aux autres, ces films-là. Ils sont dans une certaine sphère. Mm-hmm. Et sans ces personnalités-là, ça n'aurait jamais vu le jour, etc.
Mais je voulais souligner quand même ce point historique qui est assez exceptionnel, celui de la Cinémathèque Sandoz. C'est la disparition progressive des acteurs. Hein. Je crois que Michel Breitman s'en va dans les années 80, début des années 80, prend sa retraite. Gaspard, ça doit être de fin des années 90, début des années 2000. La disparition du PDG, etc. Et puis le rachat de Sandoz qui devient ultra minoritaire dans l'ensemble Novartis, qui fait que tout ça n'existe plus. C'est un contexte évidemment culturel qui a changé, qui peut expliquer ça. Je voulais donc juste souligner ce passage donc d'un cinéma de réalisation de films, avec tout ce que cela implique de précision presque artisanale, à faire les films d'animation, à filmer le plus correctement, le plus pertinemment possible des opérations ou des actes médicaux, à des actes de pure création qui sont les vôtres, entre autres, hein, vous n'êtes pas le seul au sein de la Cinémathèque Sandoz, dans les années donc 60 jusque pratiquement aux années 80. Et pour terminer, en fait, c'est un vieux souvenir qui m'est revenu là récemment. J'essayais de savoir pourquoi je m'intéressais au cinéma médical, quel avait été le déclic. Alors, je cherchais comme ça et je me souviens très bien d'avoir vu à la télévision des images d'endoscopie. Et ces images, je les ai revues dans vos films. Donc, déclic, c'était ça. L'autre déclic, c'était, j'ai retrouvé une invitation. Donc, je connaissais quelqu'un au laboratoire Stallergène. J'étais jeune étudiant à l'époque. Et nous sommes en 1985, février 1985, et je vois premier festival international du film et du livre médical. Ça se passe donc à l'hôtel Sofitel à Paris, et je m'y rends. Je me souviens très bien d'y être allé pour voir ce qui se passait. Et il y avait un comité à l'époque. Le comité, c'était le comité interministériel audiovisuel santé. Ça s'appelait comme ça, comité audiovisuel. Hein, voilà, ça rappelle des vieux souvenirs. Donc il y avait l'ébauche d'une idée d'utiliser le cinéma non seulement comme moyen d'enseignement, mais d'en faire quelque chose de patrimonial, de réunir toute cette production pour lui donner tout son sens. Et c'est à cette occasion, dans une petite salle obscure, que j'ai assisté à une projection de La séparation des sœurs siamoises Doudika Radhika. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Depuis, ça m'a hanté. C'est pour vous dire que jusque à cette époque, à ma connaissance, il n'y a pas eu de deuxième festival, hein, sinon on m'aurait informé. Donc, jusqu'à cette date de 85, c'est dans la préoccupation même d'un ministère. Hein. Et puis après, tout s'effiloche, Alors bon, c'est pas propre, peut-être, à la médecine. Hein. Il s'est passé quelque chose. Certains d'entre nous, nous avons à peu près le même âge, ont vu qu'il s'est passé des choses, une transformation profonde de la société. Et c'est pour vous dire qu'à cette époque, il était possible de sauver une très grande partie des films médicaux et chirurgicaux français, si les pouvoirs publics, hein, qui ça peut être d'autres, s'en étaient donnés les moyens. Ça n'a pas été fait, et malheureusement, j'ai bien peur qu'il y ait, hormis la collection des films d'Éric Duvivier, qu'il a sauvé parce qu'il les a produits, hein, c'est parce qu'il les a produits lui-même qu'il les a sauvés, parce qu'il avait les négatifs en tant que producteur, il est probable que d'autres réalisateurs, comme par exemple Pierre Gaillard, il reste probablement un, deux, trois films, mais c'est juste une petite portion de ce qui a été produit à l'époque.
Thierry, quand même,
oui.
Je peux te rassurer.
Ah.
Je peux te rassurer parce que les pouvoirs publics, en l'occurrence le CNC, a développé de l'argent. Bon, tous les laboratoires de tirage sont ceux des réalités, puis les autres, tous fermés les uns après les autres.
Bien sûr.
Donc il y a 1 million de boîtes de films
oui, voilà.
qui ne sont pas des films de long métrage commerciaux, mais donc des films internationaux,
d'accord.
des films médicaux, qui sont regroupés à Auxerre.
Oui.
Et il y a une mission du CNC
oui.
qui est chargée d'identifier et de retrouver les ayants droit. Donc par exemple, les films de Gaillard qui étaient tirés chez Éclair, ils doivent être là-bas.
D'accord. Oui.
Donc, pas désespéré.
Ah.
Il faudra pas tout.
Oui.
À mon avis, on en faudra pas mal.
D'accord. Bon, ben ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y a un effort, c'est récent d'ailleurs, du CNC pour étudier donc tout ce patrimoine du film scientifique et film médical. Donc, je suis heureux de savoir qu'il y a plein de bobines à Auxerre. Hein, vous savez qu'on a restauré ces dernières années un grand nombre de films de Jean Commandon, hein, qui sont maintenant disponibles en copie restaurée et numérisée, par ailleurs, aisément. Donc voilà, il y a tout un travail considérable à faire, mais évidemment, s'il y a autant de bobines, il va falloir créer un service spécialisé dans le film médical pour aller à la pêche et retrouver un petit peu tous ces titres et les restaurer avant que les copies se dégradent. Hein, c'est le problème de la couleur aussi.
Il y a aussi un autre fonds, les films industriels et médicaux oui. qui étaient distribués par les appareils bancaires et étaient distribués par un organisme qui s'appelle CETFI. Et le CETFI a fermé et je crois qu'il y a une dizaine de camions qui ont emmené des copies à Angoulême. Et ces copies sont conservées par le Conseil général des Charentes, hein, des Charentes, Angoulême, et qui veut les virer. Alors il y a deux fous de cinéma à faire
les virer.
Qui essaie de faire quelque chose,
ah.
mais là-bas il y a certainement des choses à trouver, mais bon, il faut des sous et du temps. Enfin, il y a une dizaine de camions de bobines qui sont à Angoulême.
Donc Angoulême, Auxerre, donc il faut prévoir les billets de train pour aller voir ce qui se passe et faire des sondages.
Des camions
pour. Oui, mais ensuite il faut les stocker, c'est le plus compliqué. Tu as de la place à Strasbourg.
Les moyens pour.
Voilà, c'est les moyens.
On cherche tout ça parce que je pense que c'est. On peut peut-être arrêter la matinée.
Oui, oui.
Moi, je suis très, très sensible et très heureux de faire cette journée aujourd'hui autour d'Éric Duvivier, mais en même temps, c'est une matinée autour de l'idée d'une société de production. Et je pense que le particulier, la richesse de ce qu'on peut étudier, éventuellement réutiliser aujourd'hui, de ces 700 films, c'est parce que c'est une boîte de production, tu viens de le dire, et parce qu'Éric Duvivier s'est soucié de ce que devient cette production, heureusement pour nous, et c'est aussi la possibilité de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de revenir dessus, de relire la médecine, la pratique médicale, notre société, le cinéma documentaire et l'œuvre tout à fait particulière d'Éric Duvivier. Et je pense que c'est la condition sine qua non pour faire des études du cinéma documentaire, c'est d'avoir accès aux films, sinon c'est pas possible.
Très bien, mais ça me paraît une excellente conclusion. Donc on remercie beaucoup Éric Duvivier d'être venu avec son épouse.